BW. Droits et libertés.
Souvent, c'est un fait divers qui relance dans un pays la discussion sur la peine de mort. C'est le cas ces derniers temps en Tunisie, où plusieurs femmes ont été assassinées, au point de provoquer des manifestations contre les féminicides. Le président tunisien s'est même senti obligé d'intervenir dans le débat. Et puis en seconde partie, nous reviendrons sur les méthodes de prévention qui existent en Allemagne contre la radicalisation. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Bon, alors c'est pas une manifestation monstre hein, dans les rues de Tunis, mais elle porte sur un débat qui fait rage en ce moment, la nécessité ou non d'appliquer la peine de mort. Oui, pense Lamia, une femme d'une quarantaine d'années, elle en a assez des assassinats répétés dont les médias ont beaucoup parlé ces derniers temps et qui ont horrifié l'opinion publique, même si, soit dit en passant, les statistiques officielles ne confirment pas la hausse du nombre de féminicides enregistrés dans le pays. Lamia pense en tout cas que la peine de mort, c'est un bon moyen pour dissuader les criminels de passer à l'acte.
انا قبل وقت المرحوم الرئيس بن علي كان ثم ردع.
Maintenant, j'ai peur. Sous Ben Ali, ce sont les criminels qui avaient peur. Ils ne passaient pas à l'acte. À l'époque, la police était puissante. Maintenant, on a l'impression qu'il n'y a plus de sécurité. Le soir, à 7 ou 8 heures, les Tunisiennes ont peur. Elles ne prennent plus leur sac à main, leur portable. Elles ne mettent plus de bijoux. Et on fait attention à ce qu'on porte comme vêtements.
Fin septembre, une jeune femme d'une vingtaine d'années a été agressée. À son retour chez elle après le travail, elle a été violée et assassinée. Le coupable a été arrêté et la police a constaté qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires, puis relaxé en raison de son état psychiatrique. En quelques semaines, plusieurs attaques de femmes ont ainsi défrayé la chronique, suscitant l'inquiétude dans l'opinion publique, comme à chaque fois que des faits divers sanglants font la une des journaux. Du coup, le chef de l'État en personne, Kais Saied, a pris la parole.
ولكن من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الاعدام.
La discussion sur la peine de mort se poursuit, mais qui tue quelqu'un sans raison mérite d'être condamné à mort. Bien sûr, le criminel a droit à une défense, mais si sa culpabilité est confirmée, s'il a tué une ou plusieurs personnes, alors je ne crois pas qu'il existe une autre solution que d'appliquer la peine capitale.
تنفيذ عقوبة الاعدام.
La révolution de 2011, qu'on a appelée « printemps arabe », a entraîné de nombreuses réformes en Tunisie, mais pas l'abolition de la peine de mort. Il n'y a pas encore de majorité pour cette décision assez radicale. Des criminels sont donc bien toujours condamnés à la peine capitale, mais elle n'est plus appliquée depuis 1992. Et la condamnation à mort en Tunisie équivaut donc dans les faits à une condamnation à la prison à perpétuité. Les militants associatifs qui défendent les droits de l'homme trouvent ce regain de voix favorable à la peine capitale dangereux. Chokri Latif préside la coalition tunisienne contre la peine de mort, CTCPM. Elle regroupe plusieurs ONG et il craint que la peine de mort soit de nouveau appliquée dans son pays et qu'en plus, le discours ambiant encourage à un retour à d'autres méthodes du passé qu'il considère comme barbares.
Ça ne concerne pas seulement le droit à la vie que nous défendons. Non, non. C'est, au-delà de cela, il se pose la question du retour de la répression, retour de la torture, recourir à la torture. Parce que quand on dit qu'il faut rétablir la peine de mort parce que ça va être la solution contre le crime, ils disent, le même discours dit aussi qu'il faut recourir à la torture parce que puisqu'il n'y a plus de torture maintenant dans les locaux de la police, les criminels se sentent plus libres de faire ce qu'ils veulent. Donc il faut revenir aux atteintes à l'intégrité physique et morale des gens. Il y a aussi dans le même discours un autre argument pour dire « Oh oui, il y a des attaques contre les femmes, des viols, etc. etc. » Mais la cause de tout cela, c'est que ces femmes-là, elles sont vêtues d'une façon immorale. C'est parce que ces femmes-là sortent de leur maison pour travailler. Il vaudrait mieux qu'elles restent chez elles. Il vaudrait mieux qu'elles, même si elles sortent de leur maison, qu'elles portent le niqab et le hijab. Donc, c'est un autre discours qui est contre la liberté de la femme.
La nouvelle constitution adoptée après la révolution de 2011 prévoit que les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Des quotas ont été instaurés de 50-50 dans la fonction publique. Il y a aussi des lois qui protègent les femmes des violences. En 2017, par exemple, le Parlement tunisien a adopté des mesures fortes censées les protéger de toute forme de violence physique ou sexuelle, ou même du harcèlement. La Tunisie a longtemps été une précurseuse en la matière dans le monde arabe. Mais Sonia Benmiled trouve que les dispositions votées ne sont pas assez traduites dans la réalité. Elle travaille pour l'organisation Voix des femmes, Aswat Nissa. Croisée par une équipe de la télé allemande ARD lors d'une manifestation à Tunis, voici ce qu'elle a déclaré à nos confrères.
Nous, on appelle ici pas à la peine de mort, on appelle à l'application de la loi 58. Si la loi 58 est appliquée, beaucoup de choses, on va dire qu'on aura une justice pour les victimes, que ce soit de violences sexuelles, de violences pour les femmes et les enfants. Donc c'est quelque chose de très important parce que la loi 58 a été adoptée en 2017, elle est entrée en vigueur en 2018 et jusqu'à présent, elle n'est pas assez bien appliquée. Il y a que l'application n'est pas efficiente, on va dire. On a toujours beaucoup de crimes, des harceleurs qui ne sont pas condamnés, ce qui est très grave. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici devant le Parlement.
L'an dernier, 45 000 Tunisiennes ont été officiellement victimes de violences physiques ou verbales, la plupart du temps au sein de leur propre famille ou même de la part de leurs conjoints. Le nombre de cas a fortement augmenté depuis le début de la pandémie de coronavirus. Le ministère tunisien de la famille estime même que le nombre des victimes de ces violences aurait été multiplié par 5 cette année. Écoutez toujours Droits et Libertés sur la Deutsche Welle. Nous allons maintenant prendre le temps de la réflexion. Après l'émoi suscité par la décapitation d'un enseignant il y a 2 semaines en France, pour rappel, il aurait été assassiné à cause d'un cours d'histoire qu'il avait donné sur la liberté d'expression. Quelques jours après seulement, les autorités annonçaient la dissolution d'une 50aine d'organisations considérés par l'État comme ennemis de la République, car prônant des valeurs considérées comme antidémocratiques. En Allemagne, un débat similaire existe, à propos notamment de certaines associations islamistes, mais Götz Nordbruch, co-directeur de l'association UFUK, estime que les méthodes de prévention sont plus efficaces ici. Et il salue le fait que la République fédérale mise moins sur l'approche sécuritaire que la France. On l'écoute.
C'est plutôt une approche éducative et je pense que une autre différence entre la France et l'Allemagne, c'est que la définition de l'extrémisme est différente de la France. L'extrémisme en Allemagne ne touche pas seulement la violence, par exemple, ou les délits, mais ça commence déjà avec le racisme, l'antisémitisme, la homophobie, la dévaluation des autres. Et ça veut dire qu'on peut lancer les projets préventifs dès qu'il y a, par exemple, des phénomènes qui touchent à la liberté des autres. Ça offre la possibilité de commencer en avance, avant même qu'il y ait des phénomènes concrets comme la radicalisation violente.
Et du côté de la répression, de la surveillance avant la répression, on entend souvent que le problème en Allemagne, c'est la multiplication des acteurs. Qu'il y a beaucoup de services de renseignement intérieur, par exemple, et que c'est difficile de coordonner cette action.
Là, je ne pense pas qu'il y ait une grande différence avec la France. Il y a toujours les problèmes, par exemple, par rapport à la question de partager des données, des informations entre les acteurs différents, parce que ça pose des problèmes légaux. On n'a pas le droit de partager librement des informations entre les professeurs, par exemple, et les gens qui travaillent dans la police, par exemple. Je pense vraiment que la grande différence entre les deux pays, c'est la manière comment on traite les problèmes éducatifs. La seule option de prévenir la polarisation, c'est entraîner les jeunes d'accepter les différences, de savoir vivre avec des conflits. Par exemple, dans le domaine de l'éducation, il y a bien des moyens pour, dans le quotidien, de renforcer l'identification avec la société.
La liberté d'expression et de religion sont des valeurs capitales de l'Allemagne. La Constitution prévoit que le gouvernement ne peut entraver leur exercice que dans des cas extrêmes, et ce, afin d'empêcher une reproduction de la répression comme celle mise en place sous la dictature nazie. A contrario, les mouvements considérés comme extrémistes sont ceux qui remettent en cause l'état de droit démocratique et ses valeurs fondamentales. Et puis pour clore le volet prévention, certains reprochent à l'Allemagne de ne s'être pas considérée pendant longtemps comme une terre d'immigration et donc de n'avoir pas assez prévu d'intégrer les immigrés à la société allemande. En plus des programmes nationaux de prévention et des numéros verts qui existent en Allemagne, de nombreuses structures associatives comme UFUK œuvrent sur le terrain à promouvoir le dialogue et à prévenir la radicalisation. C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Dunia Sadaki pour les sons de Tunisie et à Götz Nordbruch pour sa disponibilité. Si vous souhaitez réécouter ou podcaster ce magazine Droits et Libertés, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique Nos podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.